jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, va enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes, au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000. Travaille dans une banque du centre-ville et tu l'auras compris, le bureau de monsieur n'est pas au rez-de-chaussée, le bureau de monsieur est en hauteur. Costume sur mesure, 4000, il en impose dans les couloirs parfaitement corporate. Un bel exemple de réussite, monsieur s'est fait tout seul, a bien placé ses billes et ne s'en cache pas. C'est d'ailleurs son histoire.
C'est l'équipe d'Imaginaire dans le studio de Radio G jusqu'à 22h avec Sébastien.
Oui, c'est tout à fait ça, ouais.
Qui est avec un invité, on l'avait prévu, on avait parlé la dernière fois.
Ouais, un invité au téléphone, Stéphane Beauverger, qui est l'auteur de Complot sous la Lune, qui a été primé au prix du livre-jeu 2021.
Donc, dans quelques minutes dans cette émission, et avec Karine, on va parler des Utopiales
tout
en fin d'émission. Le plus grand festival de science-fiction francophone.
Voilà, exactement.
Qu'aura lieu à Nantes, toujours à la Cité des Congrès.
Exactement, du 30 octobre au 1er novembre, au 2 novembre.
Et ça tombe bien parce que Stéphane, justement, qu'on aura au téléphone tout de suite, eh ben, il fait partie des invités des Utos.
En effet.
On est bien raccord. Et puis, on a une petite nouvelle, enfin, on ne sait pas s'il restera.
Mais si.
Camille. Bonjour. Qui va nous parler de romantisie.
Oui.
Parce que ça, c'est un truc qu'on... C'est pas très lu, je crois, dans l'association Imaginaire.
Oui.
Hein? Sébastien, Karine, non, vous lisez pas. Moi non plus, je ne lis pas de romantisme.
Non, pas particulièrement.
Quelque chose qu'on a vu, on va dire, un sous-genre, peut-être, on pourrait dire, littérature de l'imaginaire, qui est arrivé au moins dans les librairies.
Oui.
Il y a quelques années.
Ça fait, tout à fait. deux, trois ans, plus.
Un peu plus, je crois.
Ouais. Mais bon, j'avoue que là, ça a connu une sacrée vague.
Ouais.
Une sacrée vague de notoriété, si je puis dire.
Ouais, je pense que y a vraiment un engouement autour de ce style. Ouais. Et ben, donc tu vas nous présenter ça tout à l'heure avec quelques coups de cœur, non? Tu as ramené aussi quelques livres.
Trois.
C'est super. On commence avec, en attendant que d'avoir Stéphane au téléphone, on va s'écouter la musique d'un film qui va être présenté aux Utopiales. Alors c'est pas du tout la compète, hein, parce que ça date de 1988. C'était Killer Clowns from Outer Space. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce film. En tout cas, ça va être l'occasion, ça fait partie de la rétrospective. Alors le thème, c'est singularité des Utos.
Oui.
La rétrospective cinéma, moi, genre, en fait, moi je sais pas trop ce que ça veut dire singularité, donc j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment un thème. Je trouvais que leur programmation, enfin la rétrospective au moins, ça portait un petit peu.
Alors, je pense que c'est pour fêter leurs 25 ans d'existence.
Mais il y a aussi ça, t'as raison, c'est aussi la fête des 25 ans. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y aura des animations spéciales. Et donc, Killer Clowns from Outer Space, film d'épouvante, bah, pour Halloween, en fait, c'est pas mal, quoi. Parce qu'il y a ce côté vraiment grand guignol avec donc des aliens, mais qui sont des clowns, hein, qui viennent avec leur cirque. Genre un peu une espèce de soucoupe volante cirque et tout. Et vous allez voir, donc, la BO de John Massari à l'époque, voilà, reflète bien tout ça. John Massari, donc dans Imaginaire sur le 101.5, ça c'est vraiment typique, je dirais, des musiques de films d'épouvante un peu humoristiques de la fin des années 80. Et il est revenu à la composition parce qu'en fait, il y a 2 ans, on a fait un jeu vidéo à partir de ce film. Et donc John Massari a refait une BO, alors cette fois avec des vrais instruments. Allô, allô ?
Allô ?
Eh oui, il y a quelqu'un au téléphone ?
Ça va ?
Oui, ça va très bien.
Bon, on t'entend impeccable. Alors là, je suis donc avec toi, Stéphane. Peux-tu nous présenter rapidement nos auditeurs du 101.5 ?
Oula ! Bonsoir les auditeurs. Stéphane Beauverger, 56 ans, scénariste, écrivain de science-fiction, scénariste de jeux vidéo principalement, de bande dessinée à l'occasion. Et gros joueur devant l'éternel, jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo évidemment. Et
est-ce que as-tu testé le jeu vidéo de Killer Clowns ?
Non, pas encore.
Ah.
Non, mais je suis très très très. En fait, c'est généralement c'est pour le boulot que je teste des jeux. C'est terrible, hein. Ouais. C'est comme les gens qui parce qu'ils sont dans le cinéma, souvent quand ils regardent des films, c'est pour trouver des inspirations ou des idées. Enfin, la plupart des jeux que je teste depuis plusieurs années, c'est parce que je veux tester comment est-ce que tel ou tel jeu a été fait, tel dialogue, telle scène a été écrite, etc. C'est très très rare que je puisse jouer pour le plaisir. Et quand c'est le cas, c'est souvent sur quelques pépites personnelles. J'y joue depuis 10 ans et je vais pas forcément voir les nouveautés en vérité.
Et là, pour le plaisir, donc, tu t'es aussi dirigé à écrire du livre-jeu, ton premier, donc,
exactement.
En 2021. Ouais. édité par Posidonia, Complot sous la lune. Et donc, on va en parler avec toi. Donc, je vais démarrer par une première question.
Alors, vas-y.
Qu'est-ce qui a motivé le choix de la répartition de points au nombre de 14 pour définir les totaux des caractéristiques du héros à raison d'un à 6 points chacune, et à la suite de ça, que ces caracs s'additionnent ou une se multiplie pour donner les scores de compétences? En fait, Romain...
C'est une question bien technique, là.
Hein. En fait, Romain, on n'a pas, recours au lancer de dés pour bâtir son personnage.
Eh ben, question technique, mais question très intéressante. Je crois que c'était parce que j'avais envie... on aurait pu faire des lancers, tu vois, des lancers aléatoires, déterminer des caractéristiques de manière aléatoire. Mais j'aimais bien l'idée que, puisque tu allais devoir incarner un jeune voleur essayant de survivre, le bouquin a un fort côté survival. Alors, c'est pas survival horror, mais t'es un jeune voleur perdu dans une cité hostile. C'est pas un spoil, puisque c'est dans les deux ou trois premiers paragraphes, ta bande de jeunes voleurs a été assassinée. Toi, t'essaies de survivre, tu comprends pas ce qui t'arrive. Donc, j'aimais bien l'idée que tu avais la liberté en tant que joueur de tenter le destin à ta manière. Veux-tu mettre plutôt des points en agilité, plutôt des points en cervelle, plutôt des points en destin, plutôt des points en énergie, eh ben, vas-y, essaye, et essaye ensuite de jouer par rapport à ces points-là que tu as mis. Si tu as mis plus de points en cervelle, essaye de te servir de ta langue et de ton intelligence pour te sortir des mauvais pas. Et si tu as plutôt mis des points en agilité, peut-être tente de t'échapper. Je déconseille dans l'ensemble d'aller se friter, parce que, comme je disais, t'es un jeune voleur. En face de toi, tu vas tomber sur éventuellement des gardes, des soldats, des types bien plus aguerris que toi, et l'affrontement est très rarement une bonne solution.
Bon, il y a un petit côté un peu JDR, dans cette répartition des points. Et parlons d'une des caracs que j'apprécie particulièrement, le destin, soit la chance, quelque part, car ce destin influe, à mon sens, notre exploration urbaine, qui est très libre d'ailleurs. Quel impact, justement, recherchais-tu dans les rencontres aléatoires déterminées par un test des 6 phases de la carac destin?
Je pense que ça vient de deux choses. D'abord, très probablement du fait que je travaille dans le jeu vidéo et qu'il y a, cette tendance depuis nombreuses années maintenant de fournir aux joueurs de la liberté. C'est pas forcément les open world, mais j'aime bien l'idée que tu choisis un peu ton chemin. Et dans les vieux livres dont vous êtes le héros, j'étais souvent frustré par ce côté succession de scènes sans que tu puisses vraiment avoir beaucoup de choix. Et j'aimais bien ce principe d'avoir mis quelques paragraphes clés, principalement quand tu te promènes dans les rues de la ville la nuit, dans des grands carrefours, comme la rue des Petits Gens, la rue des Chandelles, etc., où... tu vas lancer un dé pour déterminer de manière aléatoire ce qui t'arrive à ce moment-là. Tu peux faire une bonne rencontre, tu peux faire une mauvaise rencontre, et ça a amené un petit peu d'aléatoire, et ça me semblait coller avec ce côté contre la montre. Tu as une nuit pour essayer de comprendre ce qui t'est arrivé et essayer de t'en sortir.
Et qu'est-ce que bénéficier des soutiens? Alors, non des rivaux dans mon cas quand même, j'ai été vraiment chanceux de ce côté-là, puisque je me suis fait ami avec le roi des mendiants, prénommé Gadesh.
Gadesh, ouais.
Ainsi qu'avec le grand maître de la confrérie des voleurs, Samuel. J'ai même été devant le tribunal des scélérats pour le voir. Et qu'est-ce que ça apporte d'avoir ses soutiens, ou alors ses rivaux, dans la progression arborescente de l'histoire?
Alors, c'est vrai que c'est une mécanique à laquelle je tenais beaucoup dans le projet, c'est que tu peux débloquer des rivalités et des soutiens au fur et à mesure de l'histoire, avec une petite poignée de personnages. Et à quelques occasions, ça peut t'aider. Alors, si tu obtiens le soutien du roi des mendiants, à plusieurs occasions dans ton aventure, les mendiants vont surgir tout à coup, si tu es un petit peu chanceux, et vont te donner une information très utile, genre la boutique d'un magasin où tu pourrais peut-être aller chercher de l'équipement avant de tenter de faire un cambriolage, ou méfie-toi, ne passe pas par cet endroit-là, etc. Donc eux, ils vont vraiment servir d'informateurs. Il y a 2-3 paragraphes assez croquignolets où tu as tout à coup un mendiant qui relève la tête et qui s'adresse à toi parce qu'il t'a reconnu comme étant soutenu par son roi, par le roi des mendiants. Et le grand maître de la confrérie des voleurs, quand tu vas passer au tribunal des scélérats, Tu peux devenir son rival ou son soutien. Si tu es son soutien, tu obtiendras un objet particulier, un sifflet de larron. Et si tu t'en sers dans quelques cas particuliers, tu auras un groupe de voleurs qui débarqueront pour te soutenir, pour te permettre de t'échapper d'une cellule, par exemple.
Oui, c'est ce qui m'est arrivé, c'est voilà. Les fameux escogriffes. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, j'ai été amené à rencontrer des figures donc de la pègre, de la cour des miracles de Culne. Culne, je le rappelle, nos auditeurs, c'est la cité donc en question dans laquelle on évolue, notamment beaucoup dans la ville basse. Donc j'ai pu faire prendre à mon enquête en fait en rencontrant ces figures pour élucider le meurtre de mes compagnons de la bande des bonnets percés, une certaine direction. C'est-à-dire que comme tu le disais, à un moment donné, on me dit d'aller à tel endroit avant tel autre. Et j'ai bien aimé aussi justement ce type d'exploration donc à l'aide donc de la carte aussi qu'on a en début d'ouvrage à la suite de la feuille de personnage. Et à quelles autres manières as-tu imaginé l'exploration de la cité basse pour remonter la piste du meurtrier si on n'a pas l'occasion vraiment d'avoir ses soutiens que sont Gadesh, Samiel?
Ça va être un petit peu plus random. Tu vas devoir faire un peu plus appel peut-être à ta logique personnelle. T'es quand même assez guidé en vrai. Tu as un certain nombre d'étapes qui sont clés. Tu vas devoir te rendre à la maison des courtisanes. Tu vas devoir rendre visite à Ganesh. Il y a un certain nombre d'épisodes. Je sais qu'ils vont arriver dans un certain ordre. Ça me permettait moi de pouvoir écrire des chapitres ou des paragraphes en sachant que forcément je pouvais faire référence à tel ou tel événement. Si tu as vraiment pas de chance, ça peut être un peu compliqué de trouver ton chemin, mais justement grâce au système des soutiens, par exemple, Ganesh ne peut pas devenir ton rival. Tu ne peux que éventuellement obtenir son soutien.
Et ça c'est
pratique. Alors que dans le cadre de Samuel, non, Samuel, tu peux te fâcher avec lui et ça peut mal tourner. Et tu peux, il y en a qui y arrivent. Tu peux obtenir le soutien du capitaine de la garde. Du capitaine du guet, et si tu y arrives, ça pourrait être bien utile lorsque tu vas passer ensuite dans la cité haute pour la deuxième partie de l'aventure, lorsque tu comprends ce qui s'est tramé et essayer de tenir la vengeance pour la mort de tes petits camarades. Mais d'une manière générale, c'est en fait il faut jouer vraiment avec un petit peu de chance, un peu de destin, quelques soutiens. Il y a des objets clés que tu peux trouver de plusieurs manières. Et en gros, à un moment, tu vas arriver à un paragraphe qui te dit, bon, là, si tu franchis ce mur, si tu rentres dans la cité haute, tu ne pourras pas faire demi-tour.
Pas faire machine
arrière. Est-ce que tu es sûr que tu as tout bien préparé? Donc, je laisse quand même une chance aux joueurs d'être sûr qu'ils se sont suffisamment équipés avant de tenter la deuxième moitié de l'aventure pour régler son compte au criminel qui a causé la mort de tes copains. Quoi.
Voilà, sans dire quel est son nom.
On ne va pas trop en dire.
Alors, sachant qu'également, avant de franchir cette fameuse grande muraille, eh bien, on peut avoir du besoin de matériel de voleur. On a des griffes d'escalade, on a aussi des semelles souples, on a également du matériel de crochetage. Donc, c'est bien aussi quand même de fouiller à fond quand même la ville basse pour avoir justement un maximum de matériel qui nous aide en plus.
Oui. C'est toujours pareil, c'est que tu as plusieurs façons d'obtenir les objets nécessaires à ta mission. Tu peux tenter sans également. Tu peux tenter de les voler.
Aussi,
il y a quelques occasions, puis après tout, tu es un jeune voleur. Tu vas pouvoir essayer de tenter de dérober des choses. Tu peux aussi tenter de dérober de l'argent, ce qui te permettra d'avoir assez de piécettes en poche pour te porter acquéreur des objets dont tu aurais besoin. Un couteau, un épluche légumes, des monte-pneus. Donc tu pourrais avoir besoin pour ta mission. Ça reste très classique. Après de la graisse, le joueur se doute que une corde, de la graisse, des griffes d'escalade, ça devrait pouvoir être décroché,
ça
devrait pouvoir être utile à un moment.
Et là j'en viens aux illustrations. Alors c'est un peu comme dans les tambours de Chamanca, qui était très généreux en illustrations. Ça c'est un atout vraiment des livres jeux Posidonia. Comment ces illustrations plutôt nombreuses de parties de la ville dans ton œuvre ont-elles été pensées pour l'immersion du Joukineur? Et qu'est-ce qui la distingue vraiment de l'autre cité des voleurs qu'on connaît bien, nous à Imaginaire, le port du Sable Noir?
Ah, c'est très joli, Joukineur. Je ne connaissais pas le terme.
C'est Aymeric qui l'a inventé. Aymeric.
Bravo. En fait, j'ai fait une liste. J'ai fait une liste des paragraphes qui me semblaient être les plus intéressants, les plus éclairants, qui auraient composé une espèce de galerie d'images pour essayer d'immerger le plus possible les joukineurs dans leur exploration de la cité. Et à partir de là, il y a toute une série de d'illustrations qui ont été produites. Certaines ont été reprises telles quelles, d'autres ont été légèrement amendées pour coller davantage, améliorer un peu l'ambiance ou ne pas trop en montrer et garder. J'aimais bien le côté révéler, montrer des choses sans trop montrer de la ville, laisser quand même un petit peu imaginer et rêver les lecteurs.
D'accord. Et j'avoue que je suis mort quand même par une fléchette empoisonnée. Et vu que les combats ne sont vraiment pas légion, je dirais que même si on compte goutte dans Complot sous la Lune, quelle place as-tu voulu qu'occupent les PFA? Souvent, on a les paragraphes de fin d'aventure, on a souvent avec ces paragraphes qui sont assez courts, des petits dessins qui représentent un peu la mort qui survient pour notre héros qui s'appelle, je le rappelle aussi à nos auditeurs, Jeren.
Jeren, ouais. En fait, je le dis d'ailleurs avant que l'aventure commence, vous risquez de mourir très souvent. J'aimais ce côté mission très difficile. T'as très très peu d'atouts de ton côté au début de l'aventure. T'es un adolescent abandonné à toi-même dans une cité médiévale fantastique hostile, très hostile. Donc, lorsque tu as des combats, tu as vraiment très peu de chances de t'en sortir. Il est fortement... T'es un jeune voleur. T'es pas un combattant. T'es pas un guerrier. Il est très fortement conseillé d'y échapper. Mais des fois, tu y arrives pas. T'es reconnu parce que t'as un casier judiciaire. Plus tu fais des actions mauvaises dans la ville, plus tu vas cocher des cases qui vont augmenter ton casier judiciaire. Et plus tu as des chances que les gardes te rencontrent et te reconnaissent quand tu as des rencontres aléatoires dans la cité. Et du coup, j'aimais bien le côté désarmé. La situation un peu frustrante de la mort, en écrivant à chaque fois des petits paragraphes un petit peu pas comiques, mais un petit peu légers, un petit peu décalés, et qui en plus illustraient, on te voit en train de tomber d'un mur, on te voit prendre une fléchette, on te voit te faire étrangler, etc. Et je trouve que ça désamorçait un petit peu le fait de tomber. Il y avait une petite récompense, si tu veux, sur le fait de tomber sur un paragraphe final, quoi.
Et par rapport à ces patrouilles du gars, avant qu'on en passe à ton choix musical, moi j'ai réussi à échapper aux arrestations, mais j'ai un peu fouillé et je me suis rendu compte que même en étant arrêté, ça ne signifie pas la fin de l'aventure. Tu peux être amené à aller dans le beffroi. Et est-ce que quelque part, t'as voulu quand même rendre le livre jeu quand même assez facile de ce point de vue-là pour dire, même si tu échoues une première fois, eh bien il te reste encore une chance, même dans le beffroi, pour t'évader et t'en sortir.
Oui, c'est exactement ça. En gros, si tu te fais arrêter par la garde, tu vas être amené devant le capitaine du guet. Tu pourras déjà avoir eu l'occasion de le croiser avant ou pas. Ça va déclencher éventuellement, selon la manière dont tu essayes de t'en sortir face à lui, il te connaît, hein, il sait que t'es une petite fripouille des bas quartiers. Tu pourras obtenir de lui une rivalité ou un soutien. Et en fait, tous ces éléments-là, des objets que tu auras pu trouver, des soutiens ou des rivalités que tu auras débloquées au fur et à mesure de l'aventure, dans les derniers paragraphes du jeu, tu as vraiment une espèce de climax. Et tous ces éléments-là, en fait, le livre va te dire, est-ce que tu as un soutien de telle personne? Oui, non. Est-ce que tu as trouvé cet objet? Oui, non. Et ça va déterminer les différentes façons que tu as d'essayer de te venger, en gros. Par exemple, le capitaine Neka, le capitaine de la garde, il est présent dans la cité haute la nuit, et si tu en as un soutien, lorsque tu vas formuler tes accusations vis-à-vis de l'authentique criminel qui a massacré ta famille d'emprunt, il pourra se souvenir qu'a priori t'es plutôt un bon gars au final et il t'écoutera d'une meilleure oreille. Donc ça peut t'aider.
Et là on va prêter l'oreille à ton choix musical et il laisse la parole à Romain parce qu'il était très intéressé d'ailleurs par ce groupe.
Ben oui, Int, quand même, peut-être le deuxième groupe de rock angevin le plus connu, après les Tugs, je dirais.
Très clairement.
Et Romain, tu avais une question.
Mais pourquoi ce choix?
Tout simplement parce que Int est un des meilleurs groupes. Alors, c'est toujours difficile de dire ça. À mon avis, c'est un des meilleurs groupes de la scène noise expérimentale, électro-rock des années 90. C'est, à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient sur cette scène-là en France, en particulier du côté de Nantes, du côté d'Angers. J'ai eu la chance de tomber sur leur premier album dans les années 90. J'ai été bluffé par leur inventivité, leur créativité. Ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie d'écouter à l'époque. Et d'album en album, ça ne s'est jamais démenti. Et ben voilà, 30 ans plus tard, c'est toujours le cas. Et en plus, j'ai eu la chance dans ma carrière, pour la parution d'un de mes romans, de sortir une bande originale du livre, c'est-à-dire un CD qui sortait spécialement en version collector avec le livre pour illustrer et lui fournir une bande sonore. Et mon éditeur m'avait dit, tu voudrais contacter? J'ai dit, ben, Int, bien sûr, je voudrais travailler avec Int. Et je les avais, il a dit, ben, tentons. Je les ai trouvés sur un forum, j'ai envoyé un petit message, bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphane, ceci n'est pas un scam. Si vous voulez travailler avec moi, ce serait bien. Ils m'ont répondu, ils ont été très gentils, on s'est rencontrés et l'album est sorti. Et voilà, donc ce soir, sur une radio angevine, forcément, j'allais leur faire un petit clin d'œil. Quoi.
On s'écoute ça.
Et à tout de suite, Stéphane.
Sur le 100.5.
Et les auditeurs, si vous avez des questions à poser à Stéphane, vous pouvez les poser sur le chat pendant la chanson. On les écoutera après.
There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide and Exxon. Those are the nations of the world today.
Face of God.
AT&T and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today.
Ça met dans l'ambiance de la cité de Köln.
Donc, ouais, un extrait de leur deux, enfin, on trouve sur certaines versions de leur deuxième album, disque, qui était sorti en 1996.
Exactement.
Et donc, on va en venir maintenant à un personnage que j'aime beaucoup, le personnage féminin de Delia, qui est illustré rien que ça trois fois dans le bouquin. Alors, c'est un personnage qu'on aspire à retrouver par la suite dans une nouvelle chronique de Köln pour connaître son évolution. Et comment la dépeinture aux auditeurs qui nous écoutent? Et n'aurait-elle pas été une belle héroïne à incarner ensuite de Jiren?
Ah, c'est vrai. Je vois que tu es un lecteur et un critique assidu. Tu as perçu effectivement que c'est un personnage qui est très haut en couleur et qui est mis en valeur. C'est un petit peu. Enfin, quand je l'ai conçu, c'est l'équivalent. C'est le pendant féminin de Guérin. Guérin est un jeune orphelin qui a tenté de survivre à sa manière dans une cité très hostile. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Il a rejoint une bande de petites fripouilles et ils se tiennent les coudes et ils essaient de s'en sortir ensemble en dérobant une miche de pain, deux, trois piécettes, etc. Delia, elle... On n'en révèle pas beaucoup plus sur son passé, mais elle a choisi un chemin tout aussi triste et sinistre. Mais du côté féminin, elle est devenue une jeune courtisane dans une maison de passe, dans une maison de courtisane de la cité basse. Et elle est un élément clé de l'histoire parce qu'elle sait la raison pour laquelle tes camarades ont été assassinés. Donc à un moment, de toute façon, l'enquête va t'inviter à lui rendre visite. Oui. Et tu peux en faire un soutien ou un rival. Oui. C'est là que ça devient. Enfin, pour moi, c'est intéressant, c'est que je veux qu'on la voie dans la suite des aventures. Oui. Guérin et elle vont se retrouver. Et ce qui m'intéresse de raconter dans les épisodes suivants, c'est justement comment ils vont progresser. Prendre de l'âge, de l'expérience, elle va quitter ce métier-là, elle va devenir quelqu'un d'autre, et si tu l'as obtenue comme soutien, elle peut t'aider dans le premier tome, ça sera aussi la suite également, mais tu peux aussi en avoir fait une rivale, il y a une possibilité dans le tome 1 d'en avoir fait une rivale, et dans ce cas-là, j'espère que les joueurs auront fait le premier épisode avant, parce que cette rivalité va se développer dans ce cas-là.
Et d'ailleurs, au niveau de l'âge, si je ne me trompe pas, Jiren commence à l'âge de 16 ans.
Tout à fait, ouais. Ouais.
Et par rapport à la ville basse, on en a parlé pas mal quand même. Moi, ça me rappelle quand même la cité des voleurs, ainsi que l'ambiance des rôdeurs de la nuit que j'avais présenté, souviens-toi, Romain, à l'antenne donc d'Imaginaire. Et par rapport à la ville basse, la cité haute se parcourt rapidement. Mais j'ai relevé quand même que ses occupants sont aux aguets face à tout voleur. Bon, j'en dis pas plus. Et qu'est-ce que cette cité haute aurait à nous dévoiler de plus dans une future chronique de Köln?
Décidément, tu es un prophète, tu es un voyant. Le deuxième tome va se passer beaucoup plus dans la cité haute. En fait, comme je voulais vraiment faire un espèce d'hommage au livre dont vous êtes le héros historique des années 80-90 et qui se faisait en 400 paragraphes, j'ai voulu tenir exactement le même nombre. Et comme je voulais laisser le plus de chances possible aux joueurs d'explorer la ville basse pour se préparer avant d'organiser l'opération Vengeance dans la cité haute, je ne l'ai pas beaucoup développé. Mais ça va être le contraire dans le tome 2. Dans le tome 2, on va se préparer, mais dès le départ, Guérin a pris un petit peu de bouteille, un peu d'expérience, il a un objectif, il va organiser un gros cambriolage qui ferait de lui le plus grand voleur de la ville, et ça va principalement se passer dans la cité haute.
Et j'aurais une dernière question sur ton livre-jeu. On a évité de faire des spoilers. Alors, on démarre par la planque des bonnets percés, dans laquelle un intrus a furtivement pénétré, en fait l'assassin qui a tué notre bande d'amis, pour finir par nous introduire nous-mêmes dans le palais de Khéphren, ultra surveillé. Et au jeu du chat et de la souris, dans quels autres lieux du volume là que tu es en train d'énumérer, comptes-tu défier les talents de voleur de Jiren?
Pour l'instant, je pense pas que je suis en train de travailler dessus, mais j'ai pas encore écrit tout le détail. Mais j'aimerais bien approcher le concept de temple en fait. J'aimerais bien qu'il y ait faire un petit clin d'œil à Conan, Conan le barbare, dans ses jeunes années, quand il était voleur cimérien, n'a pas hésité à aller dérober des gemmes très attirantes, oui, dans des temples. Donc sans doute quelque chose de tendre là. Voler un objet très précieux pour un culte, mais pour ça, faut d'abord réussir à accéder au temple et à ne pas se faire repérer. Donc voilà, j'ai envie de raconter quelque chose. Quand on va dans la cité haute, dans la deuxième partie du premier tome, on voit que c'est une zone qui est certainement plus codifiée, oui, mais qui a toutes les turpitudes de la même manière, peut-être même de manière pire. Et je pense qu'il y aura quelque chose de l'ordre d'un temple de l'Apocalypse ou d'un temple très très maléfique, et qu'on y verra les turpitudes des gens riches de cette cité. Hein.
Moi, ce que j'aime beaucoup, pour conclure sur un peu mon avis global, c'est que, comme après la lecture des Maîtres des Ténèbres, le tout premier Loup solitaire ou des Sabres d'Ashgen de Gloire posthume, eh bien, on a envie d'avoir la suite. On sent que c'est comme une campagne, on va garder certainement les objets. On accumule pas mal aussi de lunes de bronze, on a des soutiens des rivaux. Mais vraiment, je te tire mon coup de chapeau et je comprends pourquoi ton livre jeu a reçu un prix du livre jeu. On a envie d'avoir la suite, on est vraiment lancé dans un mode campagne, comme dans Loup solitaire, comme dans Gloire posthume, qui sont quand même des œuvres références pour tous les jouquineurs. Et je te félicite pour ça, je t'encourage naturellement à nous publier très rapidement la suite.
Eh ben, merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Et c'était, je t'avouerai que c'était l'objectif, rendre hommage à ces bouquins qui m'ont fasciné, qui m'ont tenu réveillé presque des nuits entières quand j'étais ado, proposer une aventure qui soit très dense, avec beaucoup de rebondissements, des événements random, et un côté, je parlais de Conan juste avant, un côté très épique en fait, tu vois, des aventures qui soient très Sword and Sorcery.
Je laisse Romain pour le mot de la fin.
Ouais, je sais pas quelles sont tes actus, Stéphane. On a vu que tu serais aux Utopiales dans 2 semaines.
Oui, tout à fait. Je serai à Nantes dans 2 semaines. Ça va me faire grand plaisir. Ça fait un petit bout de temps que j'étais pas retourné aux Utos. Je vais y aller pour retrouver les copains déjà. Maintenant que j'ai déménagé, que je suis tout au fond de ma Bretagne, au bout du Finistère, j'ai moins l'occasion de croiser pas mal de gens que j'aime beaucoup du milieu et du jeu et de la littérature et de littérature de genre. Je vais y retourner, je vais retrouver plein de gens que j'aime bien, j'espère avoir l'occasion d'assister à quelques tables rondes. Alors oui, moi j'en ferai une ou deux. J'en suis une, je suis très fier parce que je vais intervenir à une table ronde sur les anomalies
et la création avec dimanche.
Ouais, avec Étienne Klein. Je suis très content de faire ça.
Mais
j'aime aussi beaucoup participer dans le public et assister à des tables rondes. Il y a toujours des invités vachement intéressants et c'est un de mes grands plaisirs. Peut-être que je vous y trouverai peut-être, parce que je crois savoir que vous y allez aussi.
On y sera pour faire des interviews.
C'est trop bien.
Tu seras aussi à la table ronde Narration Impossible, ce que seul le jeu vidéo peut raconter, le
tout
jeudi après-midi.
Alors là, on est vraiment dans le cœur de mon métier, parce que effectivement, mon métier, ce qui me fait gagner ma croûte, c'est scénariste de jeux vidéo. Et c'est une question fascinante. Hein. Ce qu'on ne peut raconter que dans les jeux vidéo. C'est-à-dire, quelles sont les spécificités de ce médium et qu'est-ce qu'il y a de si particulier à la narration dans un jeu? La réponse, elle est dans la question. Hein. C'est d'abord un jeu. Voilà, je ne vais pas tout révéler de ce que je compte dire à cette table ronde, mais c'est d'abord un jeu. Donc tu dois toujours, toi, te faufiler entre les doigts et la manette du joueur qui est déjà très, très occupé par ce qu'il est en train de faire sur l'écran. Si tu veux lui raconter une histoire, tu viens lui murmurer des choses à l'oreille, mais il est déjà très occupé par la dimension ludique du jeu. Donc c'est une des particularités de ce métier. Ouais.
On te retrouvera en dédicace aussi, peut-être, à la librairie du festival.
Oui, c'est toujours organisé de la même manière. Quand tu fais une table ronde, après, tu vas avoir une séance de dédicace. Ouais.
Est-ce que tu as sorti une novella chez La Volte?
Tout à fait.
Dans la collection Utopia.
C'est pour cette publication que je vais participer à la table ronde sur les anomalies et les anomalies créatrices, puisque c'est une novella qui imagine une authentique utopie. J'insiste sur authentique parce que En science-fiction, quand on écrit des utopies, souvent on commence par présenter un monde qui est très beau, et puis quand on découvre l'envers du décor, c'est généralement très malsain. Il y a toujours la tentation de faire une fausse utopie et une authentique dystopie cachée. Là, non, c'est une authentique utopie. Le monde va bien, les gens sont heureux, et je pose la question de « mais qu'est-ce que tu fais des gens qui n'en veulent pas ?» Puis les gens qui sont des anomalies au sein de ce bonheur, parce que c'est tout à fait possible. Comment fais-tu si tu fais une société parfaite pour gérer les gens qui ne veulent pas de ce bonheur? Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est pour ce bouquin-là, qui s'appelle Collision par temps calme, qui est sorti à la Volte, que je vais retourner aux Utopiennes cette année. Ouais.
Ok, ben on se retrouve là-bas, donc jeudi 30 novembre. Hein. Merci à toi, c'était les congrès.
Merci à vous.
Merci Stéphane, à bientôt.
À très vite.
Bye bye.
On va s'écouter le choix musical de Camille. Hein. Sébastien, ton temps a été écoulé. Donc Florence and the Machine, qui est une artiste qu'on entend souvent dans cette émission.
Every time I try to bring
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille, donc comme m'a présenté Romain. Et aujourd'hui, je vous propose un petit voyage au cœur d'un genre littéraire qui fait battre le cœur des lecteurs, autant qu'il fait frépir les épées. Donc la romantaisie. Donc qu'est-ce que c'est la romantaisie? C'est la contraction, bien entendu, de romance et fantaisie. C'est un sous-genre hybride où la romance et le fantaisie occupent toutes deux une place centrale. Donc la romance n'est pas un simple décor, ni une sous-intrigue, attention. Elle est indissociable de la structure narrative. Sans elle, l'histoire s'effondre. Donc c'est le point de rencontre entre l'émotion du roman d'amour et l'imaginaire débridé de la fantaisie. Et si je devais résumer avec mes propres mots ce que c'est, je dirais que la romantaisie, c'est Game of Thrones qui swipe à droite sur Orgueil et Préjugés sur une application de rencontre. En ce qui concerne... Donc on pourrait se demander pourquoi ça cartonne autant, parce que la romantaisie offre une double évasion. Donc la première, c'est émotionnelle grâce à la romance, et la deuxième, narrative grâce au monde imaginaire. Donc en somme, on combat des monstres et les défis à poser à la relation amoureuse, le tout en 500 pages bien ficelées. Donc quelle est la recette parfaite pour une romantaisie, me direz-vous? Un héros ou une héroïne au destin tragique, un love interest ténébreux, souvent immortel ou maudit, et un monde magique avec ses propres règles, souvent plus complexes que les relations des personnages. Et bien sûr, des dilemmes déchirants, du type « dois-je sauver le royaume ou suivre mon cœur ?» Donc la femme forte en romantaisie, eh bien c'est une héroïne active. Elle mène l'action, prend des décisions et influence le destin du monde. L'amour est une force et pas une faiblesse, donc sa relation amoureuse la renforce au lieu de la rendre dépendante ou passive. Il y a aussi une pluralité des rôles, ça peut être une guerrière, une stratège, une magicienne, une mentor, ou même une antagoniste puissante avec ses forces et ses failles. Et bien sûr, c'est un symbole, elle incarne une autonomie, une résilience et un empowerment, contrant du coup les clichés traditionnels de la fantasy ou de la romance classique. En résumé, dans la romantaisie contemporaine, la femme forte est au cœur de l'histoire, à la fois héroïne, moteur émotionnel et figure de pouvoir. Donc, il y a quelques exemples représentatifs qui imagent la romantaisie. Par exemple, Sarah Gimas avec un palais de roses et d'épines. Rebecca Yarros avec Force Wing, donc sa saga Empyreo. Ou encore Jennifer L. Armentrout qui a sorti une série qui s'intitule Le sang et la cendre. Donc ces séries-là sont souvent citées comme figures contemporaines, ayant popularisé la romantaisie moderne, et ces titres montrent différentes façons d'équilibrer romance, action et world building. Donc la conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est la romantaisie n'est pas une simple fantaisie avec de l'amour et des rapprochements physiques, c'est une harmonie entre deux traditions narratives. Pour l'écrivaine ou l'écrivain, c'est un vrai défi parce que il faut faire en sorte que la magie serve le cœur et que le cœur serve la quête. Donc, pour résumer, la promesse faite au lecteur est voyager loin et aimer fort. Donc, mon premier coup de cœur, c'est Un palais d'épines et de roses, bien entendu, de Sarah Gimas, publié aux éditions La Martinière en 2017. Et donc, dès les premières lignes, Fer, jeune chasseuse prête à tout pour faire vivre sa famille, nous plonge dans un monde dur, glacée, où chaque jour est une lutte. Mais lorsqu'elle tue une créature mystérieuse dans la forêt, son destin bascule. Elle est emmenée dans le royaume féerique de Prithian, un univers aussi envoûtant que dangereux. Sarah Gimas nous offre dans cette fantaisie immersive et sensuelle, donc chaque détail est un parfum, un sort, un regard, et semble vibrer de magie. Donc Fer y découvre la beauté, la peur, et surtout l'amour interdit avec Tamlin, le High Lord du printemps. Donc leur relation entre passion et méfiance est le cœur battant du roman. Donc un mélange d'émotions, de désir et de pouvoir. Mais derrière la romance se cache une ombre, une menace prête à détruire cet équilibre fragile. Fer devra choisir entre l'amour et la survie, entre son cœur et son courage. Donc après ce premier tome, Sarah Gimas revisite le conte de la Belle et la Bête en y injectant de la puissance, de la sensualité, mais aussi de la magie noire. Donc Fer s'impose comme une héroïne forte, résiliente et libre, symbole parfait de la romantaisie moderne, une femme qui aime, combat et choisit son destin. Mon deuxième coup de cœur, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, donc publié aux éditions de Saxus en 2021. Cette fois-ci, on entre dans un monde où le sang, la foi et le destin s'entremêlent dangereusement. Donc Poppy, notre héroïne, n'est pas une fille comme les autres. Elle est la vierge, promise à un rôle sacré, tenue à l'écart du monde, condamnée au silence et à la solitude. Mais derrière son voile et sa docilité imposée se cache une jeune femme avide de liberté, de vérité et de vie. Tout bascule quand elle croise bien évidemment le regard de Hawk, un garde au charme magnétique, que dangereux. Entre eux, la tension est immédiate, électrique et impossible à ignorer. Ce n'est pas une simple romance, c'est une collision entre devoir et désir, entre ce qu'elle doit être et ce qu'elle veut vraiment devenir. Donc Jennifer L. Armentrout mêle avec brio romance, complot et fantasy, construisant un univers où chaque révélation remet tout en question. L'intrigue se tisse lentement, sensuelle et politique à la fois, jusqu'à exploser dans un final haletant qui change complètement la donne. Ce roman, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se libère des chaînes qu'on lui a imposées, qui ose aimer, choisir et surtout comprendre le monde qu'on lui a toujours caché. Donc, Poppy n'est pas une princesse fragile, c'est une héroïne courageuse, intelligente et prête à tout pour reprendre le contrôle de sa vie, même si cela signifie défier les dieux eux-mêmes. Donc, le sang et la cendre, c'est une flamme, un mélange de passion, de rébellion et de révélation. Un roman où l'amour devient une arme et la liberté une conquête. Et mon dernier coup de cœur, ce sera Force Wing de Rebecca Yarros, publié aux éditions Roman Hugo en 2024. Donc c'est... Alors ça commence par « Bienvenue à Basket, l'Académie des Dragons, où chaque élève joue sa vie à chaque entraînement. » Et voici Violette, frêle, intelligente et surtout inattendue parmi ses futurs guerriers. Dès le premier chapitre, on sait qu'elle n'a pas la carrure d'une tueuse, mais une force bien plus rare, celle de l'esprit et du courage. Donc Rebecca Yarros nous plonge dans un univers assez militaire, magique et haletant, où dragons et cavaliers sont liés pour la vie, ou pour la mort. L'action est intense, l'écriture nerveuse, parce qu'à chaque page on ressent l'adrénaline, mais sous l'armure bat un cœur, car Force Wing, c'est aussi une histoire d'amour et de loyauté. Une romance électrique entre deux êtres que tout oppose. Donc, ce qui rend le roman saisissant, c'est Violette, bien entendu, fragile en apparence, elle devient le symbole de la résilience féminine, prouvant que la force ne se mesure pas aux muscles, mais à la volonté de se relever. Entre dragon, désir et destin, Force Wing est une explosion d'émotions. On y vibre, on y tremble et on en ressort conquis. Donc à vous, chers auditeurs, si vous aimez les dragons, le danger et les romances qui font vibrer tout autant que l'action, ce livre est un vrai coup de cœur explosif.
Merci Camille.
Je vous en prie, avec plaisir.
J'espère que tu reviendras pour nous parler d'autres coups de cœur.
Avec grand plaisir.
Et la romantésie à Angers, c'est une librairie maintenant ?
Tout à fait. D'ailleurs, elle s'appelle Les Grimoires de l'Orphée et elle a ouvert il n'y a pas longtemps, il me semble, en mai-juin.
Ouais. Donc on les aura de la place du ralliement.
On ira peut-être les voir pour l'émission imaginaire.
Ah, leurs rayons sont incroyables.
Alors j'aimerais bien savoir, il y a des sous-genres de la romantésie, parce qu'ils ont, est-ce qu'il y a des sous-rayons
Non, il y a un rayon vraiment dédié à la romantésie. Après, il y a d'autres rayons dédiés à la romance, à la dark romance. Mais non, il y a un rayon vraiment purement romantésie et il est fabuleux.
Super. Bon, Camille, maintenant on va écouter Karine, qui va nous représenter un petit peu les Utopiales.
Oui,
bon, je pense que les auditeurs, ils se connaissent maintenant.
Ah ben oui, oui.
On y va tous les ans, puis c'est là où on fait notre plus grosse moisson d'interviews de l'année.
En effet.
Donc ça va sur toi.
Donc ça va se dérouler du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre à la Cité des Congrès de Nantes. Ils vont fêter leur 25 ans d'existence sous la thématique singularité cette année. Donc les intervenants vont se pencher sur les singularités, qu'elles soient scientifiques ou sociales, et s'intéresseront à la façon dont elles sont source d'attraction ou de résistance, perçue comme anomalie ou comme le caractère exceptionnel de ce qui nous distingue.
Donc l'affiche est illustrée par Stéphanie Hans, qui va avoir une belle exposition aussi lors des UTO.
Ouais, c'est cool. Là, j'ai ramené le premier tome de Die, bande dessinée, enfin série de bande dessinée. Je pense qu'il l'a popularisé peut-être en France.
Tout à fait.
Avec un scénario de Kieron Gillen, une BD où une bande de jeunes part en fait dans l'univers de leur jeu de rôle, mais ne reviennent dans la réalité que quelques années après. Et Kieron Gillen avait aussi fait il a aussi écrit un jeu en fait à partir de ça. Et le jeu est sorti dans le commerce depuis. J'espère qu'on pourrait y jouer d'ailleurs au jeu de rôle, toutes les tables de jeu de rôle qui seront proposées pendant les 4 jours. Non, on n'a pas encore la programmation parce que c'est pas. On le sait que chaque jour en allant s'inscrire sur place en fait.
Oui, tout à fait. Et donc cette année, il propose 118 conférences et tables rondes, 56 séances de cinéma, 14 expositions. Et ce sera 266 intervenants, donc 89 auteurs et autrices à découvrir sur tout ce week-end.
Je trouve qu'il y a beaucoup de gens du jeu d'ailleurs cette année. Oui, c'est peut-être, moi qui me biaise un peu. Et dans les invités internationaux, il y a Brian Evanson. J'étais surpris et j'ai ressorti mon livre Alien No Exit. Un des 4 romans Alien à avoir été traduit en France, je pense. Ouais, je crois qu'il y en a que 4 sur la vingtaine de romans officiels Alien. Ça date d'il y a quelques années, mais Brian Evanson, donc écrivain de science-fiction américain. Donc si j'irais le toper, je pense à sa séance de dédicace pour faire dédicacer ce bouquin. J'ai vu qu'il interviendrait sur une table ronde sur les monstres.
Et donc justement, ce sera l'occasion aussi d'assister à la remise des prix. Donc le prix Utopia a été révélé.
Ah, ça va être. Alors c'est quoi?
Alors, hop. C'est mon téléphone qui va.
Donc on le sait 2 semaines avant quand même. C'est assez marrant.
Oui, tout à fait. Mais ils ont pas tout révélé leur prix.
Ils donnent aussi le prix Julia Verlanger. Il y a un prix de la bande dessinée. Tout ça,
oui,
ce sera
complètement
donné en direct. D'ailleurs, cette année, j'ai vu qu'ils étaient sur Twitch aussi, les Utopiales.
Oui.
On verra comment ça s'organise tout ça.
Donc ça va être La dernière tentation de Judas de Philippe Battaglia.
Ah bah très bien.
Aux éditions La Talente.
Ouais.
Et puis il y a le prix Utopia Jeunesse, Nous, de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse.
Ou Philippe Battaglia aussi, qui est quelqu'un qui écrit du gore dans la collection Gore des Alpes. Je ne sais pas si tu connais Sébastien.
Oui.
Et j'irai peut-être l'écouter le vendredi sur une table ronde Jésus comme personnage de fiction. 13h45. Moi, j'ai aussi sélectionné. Il y a les tables rondes jeux de rôle et science-fiction comment se réinventer avec des gens de la Bonne Auberge. Donc peut-être la série d'Actual Play la plus populaire, je dirais, en France en ce moment. Et en fait, le vendredi soir dans la salle 2001, ils feront une partie en direct, une partie de Things from the Flood. Donc jeu de rôle de science-fiction tiré de l'univers de Simon Stallenhag. Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé dans cette émission. Et parmi les acteurs, actrices de cet Actual Play, il y aura Floriane Soulas. Donc je suis intrigué de voir comment elle a quel poste aux Utopiales, directrice artistique, quelque chose comme ça.
Ouais. Oui, en fait, elle fait partie du comité littéraire qui organise toute la programmation.
Et d'ailleurs, Floriane, elle fera aussi une conférence le jeudi matin sur la Worldcon. Donc en gros, Nantes a pour ambition en 2032, je crois, de recevoir cet énorme événement de science-fiction internationale aussi.
Donc voilà, ce sera l'occasion de profiter de ce week-end pour découvrir tout un tas de choses.
Et bon, on reviendra peut-être un peu plus longtemps dans la programmation des Utos dans le prochain mission dans 2 semaines. On a encore quelques secondes pour annoncer plus près de nous à Montsoreau.
Oui, le 25 et 26 octobre, donc partenaire Radio G, donc pour la nouvelle rencontre ufologique, donc au foyer socioculturel de Montsoreau. Et notamment avec la pointure qu'on avait eue à l'antenne, Frédéric Brochard.
Et puis c'est parrainé par Jacques Vallée, qui était le monsieur dont on a fait un personnage dans Rencontre du Troisième Type, quand même, incarné par Truffaut, je crois, si je me rappelle bien. Puis il y aura le Festival Artypique aussi en novembre. On vous parlera de tout ça dans notre prochaine émission. Bye bye, salut.
Salut.
Salut, bonne soirée. Two signs I gotta leave, you know how it is.
You and me, we can take on the world. We can be savages. I called my dealer, said share the wire with all of us. I told him we've been so nice, don't turn him no.